journal complet de la rédaction d'Europe 1 avec vous Sébastien Krebs.
Et bienvenue à tous si vous nous rejoignez, merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. C'est Théo Manval qui est là pour le journal. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Un homme toujours en garde à vue pour avoir menacé de s'en prendre aux gendarmes qui sécurisent le G7 à Biarritz. 4 autres suspects ont été relâchés. On fait le point sur l'enquête dès le début de ce journal. Les comptes de 2000 contribuables piratés sur le site des impôts. Une cyberattaque a priori sans gravité mais qui interroge sur les failles dans la protection de nos sites internet les plus sensibles. Dans ce journal également, les migrants du navire Open Arms débarquaient cette nuit à Lampedusa. On verra qu'en France, après une période d'aide, certains jeunes majeurs se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Et puis une nouvelle tendance pour agrémenter vos vacances, le tourisme industriel est en pleine expansion. On visite la dernière fabrique d'aiguilles en France à la fin de ce journal.
Europe 1.
Elles avaient lancé l'idée de s'en prendre à un hôtel accueillant des gendarmes pour le G7 à Biarritz. 5 personnes ont été arrêtées lundi. Ce matin, 4 d'entre elles ont été relâchées, mais un homme reste donc en garde à vue. Si les messages postés sur les réseaux sociaux ont pu laisser imaginer le pire, la menace, elle, semblait encore plutôt diffuse, Guillaume Bié.
Dès leur publication sur Internet, les messages ont été repérés par les gendarmes. Sur des réseaux sociaux où se croisent sympathisants gilets jaunes et activistes radicaux, une jeune femme a été la première à divulguer le nom et l'emplacement d'un hôtel des Landes devant héberger des gendarmes participant à la sécurité du G7. Rapidement, des internautes lui répondent. L'idée de commettre une action violente se dessine. L'un des participants appelle même, je cite, à faire cramer l'hôtel. Très rapidement, les gendarmes identifient et localisent les auteurs de ces messages qui ont donc été arrêtés. Au total, 3 hommes et 2 femmes placés en garde à vue, des suspects de 24 à 44 ans, originaires d'un peu partout en France et dont certains sont connus des services de police pour faire partie de la mouvance anarchiste. Mais hier, 4 d'entre eux ont été remis en liberté, pas de poursuite judiciaire à ce stade. Seul un homme reste soupçonné de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit par moyen électronique. C'est lui qui aurait lancé l'idée d'incendier l'hôtel. Un projet virtuel, une menace en ligne pour laquelle les enquêteurs n'ont pas trouvé d'indice, laissant penser que les suspects allaient réellement passer à l'acte.
Les informations de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Le G7, Donald Trump, lui, souhaiterait justement le voir se retransformer en G8. Depuis la Maison-Blanche, le président américain a dit vouloir le retour de la Russie à la table des discussions. La Russie exclue depuis 2014 et son annexion de la Crimée.
À l'Elysée, c'est la rentrée, Conseil des ministres ce matin.
Le gouvernement se remet au travail après 4 semaines de vacances. Et autour de la table, on évoquera peut-être ce sujet qui a donné du fil à retordre au ministère de l'économie cet été. 2000 comptes de contribuables ont été piratés sur le site des impôts. Ça s'est passé fin juin, tout est depuis rentré dans l'ordre. Mais une cyberattaque sur un site aussi sensible pose forcément des questions, Carole Ferry.
Au départ, ce sont les boîtes mail de certains contribuables qui ont été piratées. Des hackers ont réussi à s'y introduire et à voler des données, notamment des numéros fiscaux. Ça vous est peut-être déjà arrivé, quand vous souhaitez aller sur votre compte fiscal et que vous avez perdu votre identifiant, vous pouvez le récupérer très facilement par mail. Pratique, sauf que là, les hackers ont pu mettre la main dessus et il ne leur restait plus qu'à actionner l'opération suivante, le renouvellement du mot de passe. Hop, en 2 clics, ils avaient pénétré dans ces comptes fiscaux. Pourquoi faire ? Pas pour voler de l'argent, selon la Direction Générale des Impôts que nous avons contactée, puisqu'il n'y a rien à voler. Le plus souvent, ils ont ajouté des réductions, des crédits d'impôts, déclarations de revenus. Depuis, toutes les victimes ont été contactées par téléphone ou par courrier. En fait, ce qui a mis la puce à l'oreille des services fiscaux, c'est qu'ils ont observé d'un coup une demande massive de changement de mot de passe provenant du même ordinateur. Alors, qui se trouvait derrière ? Avec quelle motivation ? Une plainte a été déposée.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Bercy annonce par ailleurs la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires à la fin du mois.
À la une également ce matin, les migrants du navire Open Arms ont finalement débarqué à Lampedusa.
Scène de liesse aux environs de minuit dans le port italien. Après 19 jours passés en mer pour certains, la justice italienne a imposé ce débarquement d'urgence malgré les refus répétés du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Un autre navire reste encore en mer, l'Ocean Viking d'SOS Méditerranée avec 356 migrants secourus. La France promet déjà d'en accueillir une partie. Mais une fois dans l'Hexagone, certains déchantent une nouvelle fois. Dans 10 jours, 140 demandeurs d'asile vont se retrouver à la rue à Orléans. Ils viennent d'avoir 18 ans et le département arrête donc de les héberger. Pierre Herbulot.
Il y a 10 jours, Yves était encore mineur. Dans 10 jours, il dormira dans la rue. Pour sa majorité, ce jeune centrafricain n'a plus le droit à une place d'hébergement. À la place, une aide de 420 euros par mois. largement insuffisant pour se loger et s'acheter de quoi manger. Problème, s'il arrête ses études pour travailler, il perd son titre de séjour.
Une semaine après ta majorité, on te dit bon, « Ok, tu es majeur, tu vas te débrouiller. » Le 2 septembre, je reprends l'école. En même temps, le 31 août, on me demande de sortir. Donc, on dirait une piège. C'est comme si le piège se referme sur nous. Tu vas à l'école, mais je vais à l'école, je dors où? Je fais comment? Ok, si tu veux, tu travailles, mais quand tu travailles, tu peux pas aller à l'école. On est vraiment perdu, on ne sait pas quoi faire.
Dans le département, ils sont 140, tout juste majeurs et dans la même impasse.
C'est-à-dire qu'on applique la loi froidement.
Ségolène Petit fait partie du collectif de soutien aux jeunes étrangers isolés du Loiret qui appelle à manifester cet après-midi.
Oui, c'est violent, c'est ce qu'on dénonce. Enfin, nous, on trouve vraiment ça inacceptable, inacceptable. Yves, il fête son anniversaire dans la rue, en fait, c'est ça, voilà. On leur demande à la fois de devenir autonomes et on ne leur donne pas les conditions nécessaires pour le faire.
Une proposition de loi discutée prochainement au Sénat doit prolonger l'accompagnement en hébergement de ces jeunes jusqu'à 21 ans. Un délai qui aurait laissé à Yves le temps de valider un bac pro dans l'électronique, de trouver un travail et, comme il dit, de s'insérer dans la société. Orléans, Pierre Herbulot, Europe 1.
En Italie, les consultations débutent cet après-midi à Rome pour tenter de sortir de la crise politique.
Le président Sergio Mattarella va recevoir les leaders de tous les partis après la démission hier soir du Premier ministre Giuseppe Conte. Conte qui reste chargé d'expédier les affaires courantes après l'explosion de sa coalition au pouvoir sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Alors que peut-il se passer maintenant? Quel avenir immédiat chez nos voisins transalpins? La correspondance à Rome de Blandine Hugonnet.
Devant les sénateurs, hier, le président du Conseil a été très clair. Cette crise politique, c'est la faute de Matteo Salvini. C'est lui qui a fait éclater sa coalition, déjà très fragilisée avec le mouvement 5 étoiles. Accusé d'irresponsable, le chef de la Ligue réplique, c'est aux Italiens de décider de l'avenir politique du pays.
Les Italiens, ils m'arrêtent pour me dire « Merci, on n'en pouvait plus de ces chamailleries ». Si les Italiens ont la chance de retourner aux urnes, ils pourront faire leur choix. Sinon, ils sont victimes de petits jeux de palais. Donc je demande la voie maîtrise. Des élections.
Des élections anticipées en octobre prochain, c'est le scénario rêvé pour Matteo Salvini, presque assuré d'en sortir gagnant. Un scénario possible seulement si aucune majorité ne se dégage pour former un gouvernement. Mais une alliance se dessine déjà entre le mouvement 5 étoiles et l'opposition de centre-gauche. Dès aujourd'hui, deux jours de consultation débutent dans la capitale. Reste à savoir en combien de temps les partis vont se mettre d'accord. L'an dernier, au lendemain du scrutin législatif, l'Italie était restée deux mois sans gouvernement. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
En Espagne, une partie des habitants évacués autorisés à rentrer chez eux sur l'île de Grande Canarie, toujours en proie à l'incendie le plus important de l'année qui a détruit 10 000 hectares de forêt. Les pompiers ont réussi à contenir l'avancée des flammes sans les maîtriser complètement ce matin. Le feu est en phase de stabilisation, aucune victime à déplorer.
Europe 1, 7h08.
On passe à l'actualité des sports. Y aura-t-il ce week-end un nouveau match arrêté pour cause de chants homophobes dans les stades?
Vous le savez, c'est une nouveauté cette année qui a connu une triste première vendredi dernier lors du match Nancy-Le Mans en Ligue 2, rencontre interrompue par l'arbitre à cause des chants homophobes entonnés par une partie du public nancéien. L'ancien joueur du club de Nancy, Olivier Rouillet, a promis d'aller parler aux supporters. Il est l'un des rares joueurs professionnels à avoir dévoilé son homosexualité et il veut prendre le problème à bras le corps.
Je supporte plus l'habitude, je supporte plus le fait qu'on puisse dire que c'est du folklore, que dans un stade de foot on puisse se permettre tout et n'importe quoi. À mon époque, quand j'étais joueur, il n'y avait pas ce genre de chant dans les tribunes. Et puis, dans le système, on l'accepte. Et puis, tout d'un coup, un jour, on se réveille et on dit, il y en a marre. Stop. C'est plus possible, en 2019, dans un stade de foot, d'entendre ce qu'on a entendu, notamment à Nancy, vendredi soir. Parce qu'il n'y a que dans les stades de foot. C'est ça, le gros problème. Quand je vais voir du hand, quand je vais voir du basket, quand je vais voir du rugby, j'entends rien. Il n'y a que dans le foot que j'entends ces propos-là et ça, c'est insupportable. Donc, notre société, elle change. Eh bien, il faut tout simplement que la mentalité des stades de foot change et d'arrêter de dire que c'est du folklore, que c'est pas grave, que c'est tout à fait normal qu'on puisse traiter les joueurs de PD, d'enculés, etc. Ça, non, c'est un truc qui maintenant me sort des yeux. C'est un truc de fou.
L'ancien joueur international de football, Olivier Rouillet, hier soir dans votre grand journal sur Europe 1 avec François Clausin.
Allez, on termine ce journal avec une idée plus légère, une idée de sortie originale pour vos derniers jours de vacances.
Le tourisme industriel est en plein essor depuis quelques années, un phénomène nouveau, des visites du viaduc de Millau aux centrales thermiques EDF en passant par l'usine Airbus à Toulouse par exemple. À Saint-Sulpice-sur-Risle dans l'Oise, 15 000 touristes viennent chaque année visiter la toute dernière manufacture française à fabriquer des aiguilles. Victor Delande.
L'usine Bohain est en activité depuis 1833 et certaines machines sont vieilles de plus de 150 ans. Jean-Pierre suit avec attention les 27 étapes nécessaires à la production d'aiguilles. Impressionné par les rouages, cet ancien ouvrier dans l'automobile écoute les explications de Coralie, salariée du musée de l'usine.
On voit qu'elles sont bien entretenues, les machines elles sont bien graissées.
Puisque de toute façon en été on peut moins fabriquer d'aiguilles et d'épingles, puisque la graisse fond avec la chaleur.
Oui, durcit.
Voilà. Et donc du coup, nous on a vraiment une production qui aime bien l'humidité et le froid, et donc du coup le climat normand s'y prête bien.
L'idée de cette visite, c'est la femme de Jean-Pierre qui l'a eu, loin des foules et des choses à découvrir, les vacances parfaites pour Magali.
Je ne lézarde pas sur la plage, jamais. On adore nous les visites de châteaux, les visites d'usines, enfin quand on peut visiter quelque chose comme ça, on le fait. Cette usine-là, moi j'en ai entendu parler depuis des années. Moi j'ai une maman qui faisait de la couture, donc c'était les aiguilles Bohain qu'il y avait à la maison. Franchement, j'aime beaucoup.
Et ce savoir-faire attire de plus en plus de monde. Depuis quelques années, l'usine Bohain voit débarquer régulièrement des cars entiers de touristes japonais. Des visites qui rapportent près de 200 000 euros par an à l'entreprise. Ces revenus ont même permis au maître de l'aiguille française d'être bénéficiaire depuis son ouverture au public.
Reportage signé Victor Dolande pour Europe 1. Voilà, le tourisme industriel, c'est une idée qui fait son chemin. Merci Théo Manval, on vous retrouve à 8h.